Aurélien Scholl, l'infanticide, impression du petit. J'ai chaud. Toutefois, cette chaleur à laquelle je suis habitué, qui est ma seule sensation, qui constitue mon essence même, cette chaleur ne me suffit plus. Replié sur moi-même, depuis un temps que je ne puis pas fixer, j'éprouve le besoin de me détendre. Mes membres inférieurs s'agitent et il me semble qu'un état nouveau est proche et qu'il va se passer quelque chose. J'entends des cris étouffés au-dessus de moi. Il y a je ne sais quoi qui se brise. Les liens qui me retenaient sont rompus. Il faut que je sorte de cette impasse. De l'air, de l'air. Deux mains me saisissent et me tirent à elles. Je suis au monde. Une voix dit « C'est un garçon. Qu'est-ce que cela peut être qu'un garçon ? Je me le demande. » Je viens d'éprouver subitement une sensation de fraîcheur. C'est mon âme qui a envahi mon corps. Oh, elle attendait sur la fenêtre le moment de faire son entrée. Elle est absolument froide. Elle s'installe, elle prend possession de mon corps et, sans le faire exprès, elle m'enrhume. Je me trouve dans un état bizarre. Mes organes peuvent encore me servir. Le présent m'échappe. Il ne me reste aucun souvenir du passé. Il y a en moi comme un désir ardent de connaître la curiosité et domine tout cet autre sentiment. Je fais aller mes petites jambes, je remue mes petites doigts. Une femme, oui, celle qui m'a tiré par la tête, me plonge dans l'eau tiède. Elle me lave. Oh, le fait est que j'avais besoin de ce bout de toilette. Je ne sais où j'ai marché, mais j'avais tous les membres recouverts d'une matière qui reste au fond de la cuvette. J'ai ouvert les yeux. J'entends des sons. Pourrais-je les imiter ? Ma foi, tant pis, je crie. Cela n'a pas réussi. La femme me secoue. Alors je crie de plus en plus fort. On approche de mes lèvres une tasse remplie d'eau sucrée. Oh, c'est pas mauvais du tout. Oh ben, quand j'en voudrais, je crierai encore. Elle me couche à côté d'une autre femme, étendue sur un lit. Oh, il est pas mal. Quelle peut-être cette femme ? Elle est malade ? Elle a la fièvre ? Oh, cela doit être ma mère. Je la regarderai demain. Mes yeux sont encore trop faibles pour que je puisse me rendre compte de son physique. Oh, je me trouvais fort bien à l'intérieur. Je peux même dire qu'elle est confortable. Il reste à savoir si l'extérieur répond à ce que je connais d'elle. C'est donc cela la vie ? Pourquoi, comment j'étais tiré du néant ? Tout ce que je vois se grave dans mon cerveau. Quelle explication j'aurai à demander plus tard ? Les idées m'arrivent en foule, mais trahies par mes organes, il m'est impossible de les exprimer. Je comprends tout. Et je ne puis rien dire. Il me faudra un lent développement, un stage de plusieurs mois avant de pouvoir seulement dire « maman ». Mais j'y pense. Où est donc papa ? Il n'y a pas d'homme ici. Ma naissance cacherait-elle un mystère ? Suis-je riche? Suis-je titré? Ou bien enfant du hasard? Faudra-t-il lutter en même temps contre le préjugé et contre les besoins matériels de la vie? Écoutons, sans en avoir l'air, ma mère. Vous m'avez bien porté les lettres, la sage-femme. Oui, je lui ai remis la dernière à lui-même. Ma mère, avec un profond soupir. Et qu'a-t-il répondu? La sage-femme. Oh, il a levé les épaules et il m'a dit, « Pourquoi ça ne me regarde pas? Tant pis pour elle. » Il n'a pas même voulu voir son enfant. Je l'ai prié, supplié, mais rien n'y a fait. Il m'a repoussé en disant qu'un petit employé à 1200 francs était plus pauvre qu'une femme de chambre, que vous n'aviez qu'à mettre votre enfant nourrice et à tâcher de vous replacer. Vous n'avez rien à espérer de cet homme-là. Mais il me disait qu'il m'aimait, il m'avait promis de m'épouser. Oh, c'est toujours la même histoire, ma pauvre fille. Mais que vais-je devenir? Mais vous faites pas de chagrin en ce moment, cela vous vaudrait rien. Je suis payé pour 8 jours. Ainsi, vous avez encore 5 jours de bon. On vous trouvera une place. Et avec de l'économie, vous élèverez le petit. Ma mère ne répond pas. Des larmes sortent de ses yeux. Je fais un mouvement pour me rapprocher d'elle. Mais elle me repousse. Que puis-je la consoler, la serrer dans mes bras? Elle ne m'a pas embrassé, pas le moindre caresse. Elle souffre doucement, au physique et au moral. Mais j'y suis pour rien. Lui ai-je demandé de me mettre au jour? Est-ce ma faute si elle s'est laissée compter par un employé de magasin? Si elle avait été plus habile, elle m'aurait donné pour père un homme riche et généreux. Oh, elle m'a jeté un regard de haine. Dissimulons. Car je crois que je file un mauvais coton. La nuit a été assez bonne. La sage-femme vient d'entrer. Il faut donner le sein au petit, dit-elle. Qu'est-ce que c'est que cela? Elle me place la bouche sur une boule. Je crève de faim. Oh, ma foi, tant pis, je risque. Tiens, mais c'est très bon. Allons-y gaiement. La sage-femme me retire et me couche. Un peu plus, je vais me griser. Oh, je sais où c'est maintenant. J'y reviendrai. Ma faim est passée. Dormons. Le 8e jour est arrivé. Il faut partir. On m'a enveloppé dans une vieille chemise recouverte d'un morceau de tapis. Ma mère me porte sur ses bras. Me voici dans la rue. Dieu, que c'est curieux! Tous ces gens qui vont et viennent, ces grandes caisses qui roulent, traînées par des animaux vigoureux, qui s'appuient sur leurs bras. Tandis que leurs jambes s'agitent pour les pousser. Quel bruit, quel mouvement! Passe une longue boîte noire sur une espèce de voiture. Tout le monde ôte son chapeau. J'entends dire « C'est un mort !» Un mort? C'est un ancien enfant qui s'en retourne d'où il est venu. Ma mère marche, marche toujours. Et nous arrivons devant une sorte de boutique, bureau de bienfaisance. de placement. Oh, je ne sais pas lire, mais je devine. C'est mon âme qui a la connaissance des choses. Il va falloir apprendre péniblement tout ce que je savais avant de venir au monde. Ma mère cause avec un homme qui a des cheveux gris et des morceaux de verre sur les yeux. Mais débarrassez-vous d'abord du petit, dit-il. Où y a-t-il un bureau de nourrice? Demande ma mère. Dans la rue, à côté, au numéro 7. Oh, la vue des nourrices me réjouit. Tous ces restaurants ont vraiment bon air. Deux ou trois ont déjà mis le couvert. Des enfants têtent avec ardeur. Mais aucun d'eux ne m'invite à déjeuner. Oh, vil égoïsme! Quand je rouvre les yeux, il fait sombre. Nous sommes au bord d'un canal. Deux ou trois fois, je sens que ma mère fait un mouvement pour m'y jeter. Heureusement, un passant succède à un autre, on la verrait, alors je suis sauvé. Elle semble prendre une résolution. Elle marche d'un pas décidé. Hôtel garni, on loge à la nuit. Elle entre, on lui donne une lumière, nous montons toujours. Une petite chambre, une couchette et deux chaises. Ma mère me dépose sur le matelas qui me semble dur. Que va-t-il m'arriver? Les heures se suivent. Et tout à coup, ma mère me saisit. Elle me met une main sur la bouche et me frappe la tête sur le carreau. Ses yeux expriment la terreur. Elle regarde du côté de la porte et me serre le cou pour que cela finisse le plus vite possible. J'ai horriblement souffert. Mais la séparation de l'âme et du corps s'est faite. Je suis mort. Mon âme me regarde et ne m'abandonne point. C'est elle qui termine ce mémoire. Ma mère m'enveloppe dans un châle. Elle va au bout du corridor et me jette dans une sorte de cuvette qui est l'orifice d'un long tuyau. Je descends, je descends. Quel horrible séjour! Ayant perdu l'odorat, je souffre cependant moins que je ne l'ai cru et craint un instant. Mais je m'ennuie horriblement. Il n'y a rien à droite et à gauche, quelques pages déchirées, des romans à la mode. Mais je suis trop triste pour m'adonner à la lecture. Le temps s'écoule. Mon âme devait demeurer attachée pour une durée de 65 ans au corps qu'avait fourni ma mère. Et malgré la violente séparation qui a eu lieu, la loi reste la même. L'âme aura 65 ans à rester à côté de moi, de mon cadavre d'abord, et de mon squelette ensuite. Des coups de pioche, l'air et la lumière pénètrent jusqu'à mes restes mortels. On les étale au grand jour. Ma mère est en prison. Elle doit répondre du crime qu'elle a commis en me privant de l'existence. Nous voici en cour d'assises. Ma mère est entre deux gendarmes. Quant à moi, je suis divisé. Mon corps est dans un bocal et mon âme sur le couvercle. On interroge ma mère. Elle avoue tout. Un homme se lève et demande contre elle une punition exemplaire. Puis son avocat prend la parole. Dieu, que cet individu parle mal. Ah, si je pouvais prendre, moi, la parole pour la défendre, pauvre femme. Elle est condamnée à 5 ans de réclusion. Quant à mon père, il n'est pas venu à l'audience. Et au moment même où on entraînait maman dans la prison, il prenait un verre de bière sur le boulevard Ornano. Je vois maintenant ce qui serait arrivé si j'avais vécu, après avoir traîné une existence misérable jusqu'à l'âge de 28 ans. J'aurais tué ma mère d'un coup de couteau pour lui apprendre et pour lui prendre 80 francs dans son armoire. On m'aurait coupé la tête quelque temps après. Oh, j'aime autant avoir été arrêté au seuil de la vie. Mon corps renaîtra sans cesse. La première fois, sous la forme de Chigorée, puis sous celle de Chou de Bruxelles. Il sera tour à tour légumes et fruits jusqu'à l'extinction des siècles. Quant à mon âme, comme il y ait une compensation dans quelques années, elle animera le corps d'un nouveau directeur de l'opéra.